Bonjour à tous nos auditeurs de Radio Grand Ciel, à l'écoute de notre émission. Bonjour Jérusalem, avec en régie Simon et Elisabeth à mes côtés. Bonjour Simon, bonjour Elisabeth. Un parfum de printemps flotte dans l'air, vous avez remarqué?
Oui, c'est mon muguet, c'est le muguet.
Ouais, ça sent bon les gentils, les narcisses, les primes verts, les tulipes, là, bientôt.
Bonjour Christine, oui, ça sent bon.
Et c'est vrai
ça,
que,
effectivement.
C'est vrai que le soleil apporte un peu plus de gaieté, on se sent mieux, enfin ça fait du bien.
Profitons-en, tant que ça dure.
Alors, que pensez-vous qu'on parle? Est-ce que vous voulez que l'on parle? J'ai un beau sujet qui m'a beaucoup intéressée, surtout interpellée. C'est l'olivier, l'arbre l'olivier, qui est un arbre mythique. Je ne pense pas qu'on en ait déjà parlé.
Non, je ne pense pas. Non, hein.
Donc, c'est un olivier qui fait partie de la famille des oléacées. Mmh. Alors, même si Pâques est passé, mais on est toujours dans cette période du mois d'avril qui célèbre l'olivier, qui est en fait une très bonne représentation de symbolique.
Alors, c'est une très excellente idée, d'autant plus que l'olivier est un arbre mythique associé étroitement aux sociétés méditerranéennes.
Alors, l'olivier cultivé, plante originaire d'Asie et domestiquée au Proche-Orient à partir du 6e millénaire, se plaît dans les régions chaudes et sèches de tout le bassin méditerranéen.
C'est presque aussi difficile à dire que les chaussettes de l'archiduchesse, chaudes et sèches. Ah, d'accord. Donc, et qui a répandu cet arbre dans cette région? Pourras-tu nous dire?
Il a été répandu par les Grecs et les Romains jusqu'à une diffusion intensive pendant l'Antiquité, ensuite jusqu'en Espagne. Et en fait, l'olivier, en arabe, ça se dit zetoun.
Zetoun,
c'est-à-dire
c'est
proche de l'hébreu, c'est zet.
Il y a des noms comme ça qu'on connaît, zetoun, oui, effectivement. Alors, la place de choix est occupée par cet arbre et est très ancienne, n'est-ce pas? Et elle s'est perpétuée sans interruption jusqu'à nos jours.
Tout à fait, tout à fait. C'est devenu également l'archétype du végétal, porteur d'identité et de valeurs symboliques, qui le démarque très, très, très largement des autres plantes cultivées au sein des sociétés méditerranéennes, étroitement associées au paysage, à l'alimentation et à la sociabilité du bassin méditerranéen.
Alors, dans un paysage bien souvent aride, l'olivier apporte donc une note de verdure, de fraîcheur et de beauté.
Oh oui, tout à fait. Hein. Et pourtant, ce n'est pas un arbre spécialement impressionnant à première vue. Hein. Il n'a pas la majesté des cèdres du Liban qu'on voit dans le bassin méditerranéen. Son bois n'a pas la qualité, par exemple, du genévrier, ni ses fleurs la beauté de celle de l'amandier. Enfin, il n'a rien pour lui, quoi, a priori.
Mais qu'est-ce qui fait que l'arbre soit finalement un arbre relativement rustique qui supporte la vie difficile qu'on lui impose?
Oui, parce qu'on en trouve même en hiver. Hein. Il y a des oliviers, même en Grèce, par exemple. Mmh. Voilà. Alors, en fait, la partie importante demeure invisible, hein, puisque c'est le secret de sa résistance et de sa grande prolificité qui réside dans ses longues racines qui peuvent s'enfoncer jusqu'à 6 mètres sous terre et rayonner ainsi plus loin tout autour. Alors, ces racines permettent à l'olivier de pousser sur des versants rocailleux, de survivre à la sécheresse, quand d'autres arbres situés au fond de la vallée sont déjà morts de soif.
Et oui, on sait aussi que l'olivier produit des olives pour
bien
faire
sûr.
De l'huile.
Oui, bien entendu. Et le fait d'en produire viendrait du fait que ces racines s'ancrent profondément justement dans la terre, et ce, durant des siècles, même lorsque son tronc noueux ne semble plus bon à servir de bois de chauffage.
Alors, si ce que je comprends, c'est que cet arbre rustique a besoin de place pour pousser dans un sol aéré, pour respirer loin des mauvaises herbes et autres plantes qui peuvent abriter des parasites.
Voilà. Alors, il peut atteindre jusqu'à 20 mètres de haut. Il demeure toujours vert au plus fort de la sécheresse et figure ainsi la magnificence et la beauté. Avec la vigne et le blé, l'olivier a bénéficié et bénéficie toujours d'une grande aura symbolique au sein de toutes nos civilisations, particulièrement celle de la Méditerranée.
Alors, le symbolisme qui auréole l'olivier et ses produits ont largement contribué à donner à cet arbre une valeur toute singulière. n'est-ce pas, Christine ?
C'est un arbre emblématique du monde, hein, autour de la Méditerranée, et surtout un vecteur de relations transcendantes qui unit ces dites sociétés au divin.
Alors expliquez-nous, Christine, pourquoi cet arbre est un vecteur de la relation avec le divin ?
Eh bien, l'olivier, un arbre pétri de valeurs religieuses et spirituelles, imprègne les paysages locaux au point d'en être un composant fondamental. Son fruit et l'huile extraite sont omniprésentes dans l'alimentation et dans de multiples autres usages. Il est aussi auréolé d'un prestige sans égal qui s'appuie sur une sacralité et une relation très ténue, très fine entre le divin et le profane.
Alors, peut-on dire, Christine, que l'olivier et l'huile de ses fruits sont perçus comme des vecteurs de transcendance, des éléments intercesseurs entre Dieu et les hommes.
Voilà, comme le processus de sacralisation de l'olivier s'appuie sur des valeurs symboliques hautement louées et appréciées, les cultures méditerranéennes attribuent à cet arbre et à ses fruits en relation avec ses caractéristiques biologiques et agronomiques.
Alors l'olivier et ses produits possèdent également d'autres atouts sur de nombreux plans que beaucoup de nos contemporains leur confèrent, gustatifs, thérapeutiques, alimentaires, esthétiques, historiques, biologiques, patrimoine.
Il a énormément de qualités. Et on sait aussi que l'huile d'olive a longtemps été utilisée comme onguent pour certains soins du corps ou comme composant dans de nombreuses préparations pour soigner des maux divers. Alors, il y a les infusions à base de feuilles d'olivier qui ont eu souvent un usage encore maintenant médical. On l'associe également à des valeurs gustatives. La saveur du produit est connue depuis l'Antiquité. Et jusqu'à maintenant encore, on en fait une consommation très, très, très importante. Mmh. Les relations et les témoignages anciens abordent, bien sûr, pour louer la finesse des productions oléicoles de certaines contrées. En fait, les très, très bonnes huiles d'olive étaient déjà appréciées sur les tables romaines ou médiévales, à l'instar des grands vins et des meilleurs mets.
Alors, l'huile d'olive a profité depuis quelques décennies d'un regain d'intérêt dans notre société contemporaine grâce à la redécouverte de ses vertus sanitaires. Réduction des risques de maladies cardiovasculaires, richesse en antioxydants. On connaît tout le régime crétois qui est désormais reconnu comme une garantie pour une alimentation saine.
Très important. Comme je le disais tout à l'heure, l'huile d'olive a longtemps été une source d'éclairage, en plus d'autres symboles de lumière que les Hébreux appréciaient pour s'en servir, pour éclairer leur intérieur à l'aide de lampes à mèches. Ça servait également d'onguent pour protéger la peau du soleil et fabriquer du savon. Et c'était également un aliment donc apprécié pour ses qualités gustatives et nutritives en cuisine.
Alors l'image de l'olivier reposerait donc sur un faisceau de valeurs, longévité, santé, saveur, générosité, connaissance, opiniâtreté, pourquoi pas.
Oui. Alors il ne faut pas oublier qu'à cela s'ajoute également une certaine valorisation esthétique très très ancienne en lien avec son feuillage persistant, vert argenté et son tronc noueux, buriné par les stigmates de l'âge, mais constamment rajeuni par les jeunes pousses. Sous le prisme de l'anthropomorphisme, l'olivier symbolise une beauté sage, éternelle et une source d'apaisement et de renouveau.
Alors revenons, Christine, à l'arbre mythique. Quel olivier est représenté dans la mythologie gréco-romaine ?
Alors, tout le monde sait que l'olivier et ses différents produits, fruits, l'huile, bois, feuilles, ont donné lieu à de nombreux récits mythiques et de légendes qui abondent dans les civilisations méditerranéennes antiques. Depuis l'Antiquité, l'olivier a ainsi profité d'une grande valorisation modelée par un riche ensemble de représentations qui octroie à ce végétal une image très positive et partagée par toutes les sociétés méditerranéennes et bien sûr au-delà également.
Alors il est considéré comme un symbole d'une grande longévité aussi, hein.
Ben, c'est ce qu'on dit justement à propos du régime crétois, hein, les oliviers ayant une durée de vie qui dépasse plusieurs milliers d'années, et grâce à une taille sévère du porc, ils peuvent être constamment rajeunis. C'est-à-dire une longue temporalité historique, voire immortalité, une capacité constante à se régénérer à partir de son pied, une révélation divine, une onction royale, une force physique et la récompense dans les jeux gymniques, mais aussi comme un don des dieux, dans la mythologie gréco-romaine ou égyptienne, font de cet arbre l'arbre des dieux.
Alors on va revenir un peu en arrière dans l'Égypte antique, Christine peut-être.
Alors, pour parler de l'Égypte antique, la culture de l'olivier qui était enseignée par la déesse Isis apparaît en effet beaucoup sur des peintures où ses feuilles, par exemple, symbolisent la couronne de justice sur la tête de Pharaon, notamment Toutankhamon. La valeur symbolique qu'on attribue à cet arbre était bien grande à cette époque. Ramsès III offrit d'ailleurs au dieu Ra une plantation d'oliviers pour que les huiles, symboles de vie et d'éternité, puissent toujours garder vivantes les lampes de son sanctuaire.
Très belle phrase, Christine.
Ouais, c'est joli, hein.
Oui. On s'en souviendra peut-être.
Oui, tout à fait. Comme on se souviendra, Élie, que même en Grèce, de nombreuses légendes existent autour de l'olivier. Parmi celles-ci, celle de la fondation d'Athènes. Hein, la déesse Athéna et le dieu Poséidon se disputaient l'Attique. Athéna réussit à greffer le premier olivier sauvage et les dieux lui attribuèrent la victoire. La ville prit alors le nom de la déesse. Mais en 480 avant Jésus-Christ, les Perses prirent Athènes, la saccagèrent et brûlèrent l'acropole et ses oliviers. Les Athéniens, vainqueurs à Salamine, découvrirent ce triste spectacle en rentrant, mais par la volonté d'Athéna, l'olivier sacré du temple repoussa la nuit suivante.
Alors j'imagine que d'autres légendes et d'autres symboles de cet arbre font légion.
Il y en a plein d'autres, hein. On pourrait en faire un livre presque. Hein. D'ailleurs, ça a peut-être été fait.
Pourquoi pas?
Oui, hein. Oui, tout à fait. Alors, l'une d'entre elles raconte qu'Héraclès, le héros de la mythologie grecque, fondateur des Jeux Olympiques, planta à Olympe son bâton dans le sol et que celui-ci se transforma en un très grand olivier dont Héraclès tressait les branches en couronne pour vénérer les vainqueurs, faisant ainsi de l'olivier un symbole de puissance, de force et de victoire.
Voilà, alors ça explique tout, n'est-ce pas? Alors, la Bible, dans tout cela, on parle-t-elle de l'olivier?
Ah oui,
de l'olivier
plus que jamais, puisque la Bible fait allusion environ 60 fois à l'olive, qui est un fruit précieux que l'on consommait tel quel ou que l'on pressait pour son huile. Aujourd'hui encore, l'olivier pousse dans la plupart des régions d'Israël et dans bien des villages, la récolte du mois d'octobre mobilise toute la famille. Les cueilleurs gueulent les olives et ramassent les fruits tombés à terre. Ensuite, une partie de la récolte est conservée. Elle servira, bien sûr, à la consommation de la famille tout au long de l'année.
Et le reste, je pense, est emporté au pressoir communal où le précieux liquide au reflet vert et doré sera recueilli dans les récipients.
Vous avez tout deviné et l'huile constituera ainsi une source de revenus pour la famille. Il faut savoir qu'on a exhumé, hein, lors de certaines fouilles, des centaines de pressoirs à huile de diverses conceptions lors de ces fouilles justement archéologiques.
Alors l'olivier dans la Bible apparaît comme un objet sacralisé, symbole de la foi peut-être.
Tout à fait, puisque c'est ce que l'on met dans la Bible. L'olivier fait partie des 7 espèces sacrées invoquées et considérées par Moïse comme l'une des merveilles à découvrir en terre de Canaan par les Hébreux. Il y a d'autres citations qui témoignent également de l'ancienneté de la culture de l'olivier et de l'usage de ses produits pour les Hébreux, mais qui octroient à cet arbre de multiples valeurs qui enrichissent son image, reposant ainsi sur un puissant ancrage territorial et un fort intérêt agricole.
Alors la première référence se trouverait dans le livre de la Genèse au personnage de Noé qui tend sa main par la fenêtre de l'arche pour y recevoir la colombe qui apporte dans son bec un rameau d'olivier.
Féerique, hein.
Voilà, c'est magnifique. On y revient toujours.
Et oui, c'était la signification de l'espérance, hein, que la vie allait reprendre sur la terre. La colombe revint vers lui. Sur le soir, et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier. L'huile d'olive obtenue à partir d'olives concassées accompagne bien sûr les offrandes et est fréquemment citée dans la Bible comme un lien avec Dieu.
Alors oui, c'est tout à fait ça, car l'huile éclaire et purifie les lieux sacrés et au sein du tabernacle. Mmh. Alors elle constitue le combustible employé pour l'éclairage du grand chandelier à cette branche, la menorah. Voilà.
Et on ne va pas non plus oublier que brûlée dans des lampes, l'huile d'olive procure une clarté lumineuse avec une grande flamme et peu de fumée, ce qui fait que pendant longtemps, elle fut perçue comme le symbole de la présence divine, symbolisant la pureté et la présence divine constante.
Constante, voilà. Bon, ben merci Christine pour cette jolie promenade dans la verdure avec les oliviers.
Vassero e sinto idele, zartum stilinke, via fidele. Ich frag das Wasser, wärst du kein Mal mit, so seit langer Zeit singst du dein Lied. Hört nur kinderlich's Red, das Wasser seht wie golden's glänzt, wenn die Sonne es
Alors, nous revoici sur les ondes de Radio Grand Ciel, nous, dans notre émission Bonjour Jérusalem. Dans cette première partie un peu rallongée, nous avons beaucoup parlé des oliviers. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui, on va peut-être changer le sujet et nous allons parler des panneaux photovoltaïques. Alors, qu'en est-il, Christine ?
Dans la région de la Palestine, où vous savez que le soleil brille plus qu'il ne faut, c'est-à-dire pas loin de 320 jours par an, l'installation de panneaux photovoltaïques semble être une méthode logique et cohérente pour produire de l'électricité propre.
Alors, si nous avions autant de jours d'ensoleillement en France, l'installation de ce système serait à envisager, il serait parfait pour l'environnement.
Ça, c'est clair, oui. Oui, parce que en Palestine, le patriarcat latin a installé un type de système dans ses écoles de Ramallah, Birza, Aboud, Benjala et Gaza. Et il y a une autre installation justement de panneaux voltaïques qui est en cours à Zababdeh. Excusez-moi pour la prononciation de ces mots,
c'est pas toujours évident. On ne les situe pas très bien ces endroits, mais enfin bon, en Palestine, effectivement, ils en profitent bien et ils ont bien raison. Alors, quel est le montant de cette réduction qui baisse l'électricité ? Je pense qu'on consomme du coup beaucoup moins d'électricité et on gagne pas mal d'argent là-dessus peut-être.
Ah oui, bah, évidemment, ça contribue bien sûr à réduire la facture de consommation d'électricité puisque ce système nécessite un ensoleillement direct pour fonctionner et la région est bien sûr très riche en énergie solaire, en particulier dans les régions de haute montagne et côtières. Alors pour répondre à votre question, Elisabeth, même dans des conditions nuageuses et avec les nouveaux modèles voltaïques, il est possible de produire de l'électricité avec des taux d'efficacité qui atteignent 60 à 70%.
Ah oui, c'est important ça. Alors, on sait qu'il y a une crise d'électricité à Gaza. Alors, comment cela se passe-t-il ?
Alors, ces systèmes photovoltaïques s'avèrent bien sûr cruciaux dans la bande de Gaza, hein, où on sait que la population vit à 4 ou 5 heures d'électricité par jour depuis déjà plus de 10 ans. Les bougies, les lampes de poche et les générateurs à essence étant devenus obsolètes et bien sûr restent toujours des autres sources d'énergie de secours des Gazaouis.
Alors d'où les difficultés qui ont affecté la disponibilité des services essentiels comme les services sanitaires, la santé et l'assainissement de l'eau. Et ça, c'est grave.
Tout à fait, puisque selon le Bureau des Nations Unies, hein, pour la coordination des affaires humaines, la crise à Gaza s'est encore aggravée depuis le mois d'avril 2017, malheureusement.
Alors, le souci de l'environnement ne peut être dissocié du souci des pauvres et de la justice. Il faut prendre ça en considération, n'est-ce pas, Christine?
Oui, bien sûr. Hein. Dans une réponse à une question posée par un membre de l'audience des Nations Unies sur la crise des Gazaouis et la persistance des conditions de vie déplorables à la bande de Gaza pour remédier à ces situations, il a été souligné que le changement devait partir à la demande de la population et qu'il ne fallait donc pas seulement attendre que les solutions politiques arrivent.
Voilà. Alors une autre question peut-être, Christine. Combien de temps peuvent durer ces installations de systèmes photovoltaïques? Parce que c'est quand même assez cher à l'installer.
C'est cher à installer, savoir, mais ça a une durée de vie d'environ une quinzaine d'années, pendant lesquelles ces systèmes peuvent fonctionner efficacement, normalement. Mais dès lors, comme on peut le penser, le besoin en techniciens qualifiés et certifiés doit être fait. On doit les faire fonctionner grâce à ces techniciens qualifiés et en assurer ainsi la maintenance, ce qui est quand même assez important.
Mm-hmm. Alors, la population a-t-elle été sensibilisée à cet état de fait, Christine?
Ah oui, tout à fait. Hein. La population a été sensibilisée à l'environnement, mais aussi et surtout, c'est devenu une question importante. Au cours de la mise en œuvre du projet à Gaza, les entreprises qui ont installé ce système ont prévu des cours pour les élèves âgés de 10 à 14 ans. C'est des sujets tels que les technologies d'énergie renouvelable et la réduction de la pollution atmosphérique ont été abordés et les adolescents ont eu ainsi l'occasion de se familiariser avec le système photovoltaïque pour bien comprendre son fonctionnement, ce qui peut augurer des ingénieurs à venir pour justement améliorer les conditions de vie des Gazaouis.
Ben, je crois que c'est un sujet aussi qui est intéressant. C'est moins joli que les oliviers, mais c'est pas mal.
C'est important parce
mais
que
je crois
c'est important
que
parce que ça permet quand même.
Comme vous étiez trop bavarde pour les oliviers, je crois que nous n'aurons pas une autre pause musicale. Alors on va peut-être changer de sujet. Alors maintenant donnez-nous des nouvelles s'il vous plaît. Quelles sont les nouvelles de Jérusalem ou de cette région?
Je ne sais pas si on a, je pense pas qu'on ait parlé de la maison d'arrêt des femmes.
Non,
De Djouadet, au sud d'Amman, en Jordanie. Donc c'est intéressant.
Non, pas du tout. Oui, bien sûr.
Voilà, ça peut être toujours intéressant. Hein. C'est quelque chose qu'on pourra évoquer, peut-être un peu plus près, pour les hommes, hein, surtout, on l'évoquera peut-être dans une autre émission. Mais pour débuter, le royaume hachémite compte maintenant près de 200 détenus chrétiens répartis dans 13 prisons du pays.
Ah, alors comment ça se passe?
Oh, il n'y a rien de grave qui s'y passe, hein, rassurez-vous. Hein, seulement deux fois par semaine, une équipe de volontaires rend visite à ces femmes pour prier et les soutenir dans leur univers carcéral. C'est en fait une équipe internationale. Il y a un prêtre égyptien, un prêtre philippin, deux volontaires de Caritas et quelques sœurs de différentes congrégations qui se mettent en route pour la prison pour aller les visiter.
Alors, et pourquoi autant de diversité dans cette équipe?
Eh bien, parce que les détenues femmes que va consulter cette équipe viennent généralement de pratiquement tous les continents. Hein. Il y a tout un mélange de populations qui fait qu'on se retrouve avec
des
Philippins,
groupes,
beaucoup de Philippins, des Égyptiens, enfin, vous voyez, toutes ces personnes qui émigrent ou qui fuient leur pays.
Alors j'imagine que la vie de ces détenus est bien difficile, parce qu'il y a apparemment, il y a même des femmes sri-lankaises, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Oui, c'est celles qui ont fui, comme je le disais tout à l'heure, qui ont été plus ou moins, enfin quand on dit achetées entre guillemets par des gens, par des familles importantes et riches, et qui les ont considérées comme des esclaves, jusqu'au jour où ces femmes n'en pouvant plus, se sont enfuis et les patrons les ont recherchés, les ont fait mettre en prison. Mm-hmm. Donc c'est triste.
Hein. C'est une bien triste réalité, aussi, j'ai l'impression.
Hein. Oui, mais c'est vrai aussi que l'appât d'un bon salaire pour être domestique est vraiment attrayant. Hein. Mais une fois qu'elles sont arrivées à destination, eh bien elles doivent totalement déchantée, qu'elle reste bien sûr enfermée 24 heures sur 24.
Ce sujet de l'esclavage moderne, effectivement, ouais, c'est un sujet bien triste et bien angoissante. Alors, on pourra peut-être en parler une fois spécialement de ces personnes-là qui sont victimes de tout ça.
Oui, il y a plein de témoignages.
Ouais. Et alors, là, alors, je pense qu'il y a peut-être des vestiges qu'on a encore trouvés ces derniers temps.
Ne sais pas si on en a parlé, mais je crois pas, mais je sais plus, on en trouve tellement de vestiges. Alors là, je vais vous parler de vestiges byzantins. C'est une découverte récente qui date du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, ainsi qu'une agora byzantine découverte à Césarée lors des travaux d'aménagement des vestiges du parc national, l'un des trois sites touristiques les plus visités en Israël.
Alors, en quoi consistaient ces travaux d'aménagement
Eh bien, c'est à l'occasion d'un grand plan de conservation et de reconstruction du pont croisé du parc national de Césarée en Italie, d'un montant de 100 millions de shekels, c'est-à-dire plus de 23 millions d'euros, qui a permis justement cette découverte assez exceptionnelle, il faut le dire.
Alors, quelles sont les autorités qui participaient à ce plan ?
Alors, c'est, d'une part, il y avait la Société de développement de Césarée, l'Autorité des antiquités d'Israël et l'Autorité des parcs naturels israéliens qui ont, le 8 février dernier, c'est-à-dire il y a 2 mois environ, annoncé la mise au jour d'une mosaïque romaine multicolore, rare, vieille de près de 1800 ans.
Et pourquoi considère-t-on comme rare ?
Parce que c'est pour ses larges dimensions, c'est-à-dire elle fait plus de 25 mètres carrés, et aussi rare pour la forte densité de ses tesselles. Il y a 12 000 petits pavés par mètre carré. Donc, c'est vous dire le poids considérable. Mmh. Et enfin, rare, bien sûr, pour ses dessins de toutes les couleurs.
Ah, d'accord. Ça représente quoi, ces mosaïques ?
Alors, elles représentent des motifs géométriques, trois personnages qui sont des hommes portant la toge, sans doute issus de la classe supérieure de l'époque, et une longue inscription en grec ancien.
Et les personnages ont-ils été identifiés ?
Pas encore, car cela dépend du bâtiment dans lequel se trouvait cette mosaïque, dont l'usage n'est toujours pas clair.
Ah, d'accord.
Et voilà, si la mosaïque faisait partie d'une résidence particulière, les personnages pourraient être les propriétaires. S'il est question d'un bâtiment public, il s'agit peut-être des donateurs de la mosaïque ou des membres du gouvernement de la cité.
Ah, d'accord. Alors, avant de découvrir cette mosaïque byzantine, les archéologues avaient d'abord mis au jour un grand bâtiment opulent, vieux de 1500 ans, qui recouvrait la mosaïque, il me semble. Et c'est ça qui l'a fait endommager, non ? C'est ça ?
Je ne sais pas. Ce serait, selon les chercheurs, une agora byzantine, l'équivalent du forum.
Voilà, c'est romain. Ça. Alors,
voilà. C'est-à-dire agora, un lieu, c'est un forum. C'est un lieu de socialisation centrale qui se situe dans la cité, en plein centre de la cité antique.
Et maintenant, alors, où en a-t-on ?
Alors, la protection de la découverte est en train d'être mise en œuvre par le service de conservation israélienne et le plan d'aménagement du pont des Croisés est en cours de révision pour que cette mosaïque soit à terme accessible au public.
Et qu'est-ce qui va financer ces travaux ?
Eh bien, tout ça sera financé par la Fondation Edmond de Rothschild et la Société de développement de Césarée. Capitale du royaume de Judée sous Hérode le Grand, Césarée est le siège de l'administration quand celle-ci devint colonie romaine au début de notre ère.
Alors, pourquoi avez-vous indiqué, Christine, que Césarée était l'un des trois sites touristiques les plus en vue ?
Parce que, ayant été reconstruite, donc Césarée à l'époque croisée, elle a hérité de cette riche histoire et d'importants vestiges archéologiques. Elle attire actuellement jusqu'à 700 000 visiteurs israéliens et étrangers chaque année, ce qui la place donc en bonne position pour un tourisme.
Voilà, Christine, l'heure est venue de terminer notre émission. Je crois qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour vous faire écouter des musiques aujourd'hui. Mais qu'on a parlé des sujets qui étaient fort intéressants.
Il y en aura un petit peu.
Merci Christine de nous en avoir parlé. Et je vous dis à bientôt.
À bientôt, au revoir et merci.
Im Kreml,
der hundertste Krämer in Gas. Er sitzt und er tracht von der Keine, in Größen ist er finster und nass. Er sitzt und er tracht von der Keine, in Größen ist er finster und nass. Und er tracht. O jüdische Meluche, Rabboi sei, sie kennt ihr doch gründlich verstehen. Am Luche von Leuten.